Amen. Je voudrais aller avec vous, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5e. Nous allons aller dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5e, et au verset Jean, chapitre 5, et le verset 37. Ce sont des paroles du Seigneur Jésus. Et voici ce que le Seigneur dit, affirme. Le contexte est un contexte particulier pour le Seigneur, puisqu'il rencontre de l'opposition, tandis qu'il vient de faire un miracle ayant guéri un homme qui était malade depuis 40 ans, depuis 38 ans, pardon. Dans cette piscine de Bethesda, vous connaissez ce texte, eh bien, le Seigneur a guéri cet homme qui était paralysé. Et il s'ensuit, au lieu de rencontrer de l'affection, de la reconnaissance et un désir de comprendre ce qui se passe, mais avec un enthousiasme. Non, au contraire, le Seigneur rencontre de l'opposition et de l'adversité. Au milieu de son propre peuple et au milieu notamment des chefs religieux juifs. Et voici ce que le Seigneur dira, donc Jean 5, verset 37, il dit ceci, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. C'est quand même paradoxal de voir que, tandis que le Seigneur est en train de faire un miracle étonnant, extraordinaire, ayant guéri un homme tout entier le jour du sabbat, que celles et ceux qui ont été témoins de cela se mettent à reprocher au Seigneur Jésus de faire cette œuvre-là, justement le jour du sabbat. On lui dit, mais tu aurais pu faire ce miracle un autre jour, etc., etc. Mais vous savez combien le Seigneur s'est employé à agir le jour du sabbat, le jour du repos, le jour où on se repose, où on s'appuie sur le Seigneur. Et Jésus a fait, bien sûr, exprès d'agir ce jour-là. Il a agi d'autres jours, mais ce jour-là, pour signifier, le repos que vous cherchez, vous le trouvez en moi, alléluia, dit le Seigneur. Il est le maître du sabbat, il est le maître du repos. Et combien au milieu de nous, et j'en fais partie, pouvons nous dire, Seigneur, c'est vrai, en toi nous avons la paix. Alléluia, la paix parfaite, le repos, nous avons la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous pouvons continuer à nous appuyer sur toi, parce que tu es le même, tu ne changes pas. Amen. Alléluia. Et je voudrais, dans ces moments, vous parlez de la richesse ou des richesses que nous découvrons dans la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Vous savez que chaque évangile a un but et d'une manière générale, l'Écriture tout entière a ce même but. Et ce but, dans l'Évangile selon Jean, on le retrouve notamment dans le chapitre 20e et au verset 31. La Bible nous dit ceci, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Voilà, c'est le but, c'est l'objectif de l'Évangile selon Jean. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Décrire, définir Jésus, et en même temps, amener à la foi pour être sauvé. Et nous allons bien sûr nous intéresser à tout cela parce que nous allons parler de la foi, mais je voudrais vous faire remarquer une chose, et peut-être est-ce que tu peux, s'il te plaît Emmanuel, afficher Jean 5 et le verset 37, 37 et 38. Voilà, vous avez remarqué que Jésus dit ceci, « Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi, voyez, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en nous parce que vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. » Et je me suis dit, Seigneur, c'est extraordinaire ce verset, parce que alors que tu es face à des hommes qui s'opposent à toi, tu les enseignes quand même. le Seigneur ne les refoule pas, mais vous avez remarqué qu'il leur dit des choses extraordinaires. Et je voudrais que, au lieu de prendre cette phrase, ce verset, dans sa forme négative, vous savez les enfants, hein, David, tu vas parler aux enfants là, voilà, révision, forme interrogative, forme affirmative, négative, d'accord, hein. Et là, on est dans une forme négative. Il n'y a que des vous êtes d'accord, hein, voilà. Tu peux le remettre, s'il te plaît. Voilà, vous n'avez point vu sa face. Mais essayons un moment de le mettre dans sa forme affirmative, positive. Ben, on lit autre chose, et regardez comment c'est merveilleux ce qu'on lit. Eh bien, vous entendez sa voix, vous voyez sa face, sa parole demeure en vous, parce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et je voudrais que nous puissions comprendre que si nous commençons à placer notre foi en Jésus-Christ, il y a comme un mouvement béni qui se met en marche, où nous nous mettons à entendre Dieu nous parler, où nous sommes dans sa présence et nous verrons ce que signifie voir sa face dans l'Écriture. Et ensuite, nous découvrons une chose extraordinaire, c'est que nous devenons une habitation de Dieu, parce que le Verbe dit, qui dit demeurer, c'est habiter. Sa parole, elle demeure en toi. C'est-à-dire que les choses, eh bien, que Dieu te communique, ce n'est pas comme de l'eau au soleil qui s'évapore, ce sont des choses permanentes. Et ce matin, le Seigneur veut ouvrir ton cœur, veut placer des promesses dans ta vie, veut placer, eh bien, son esprit dans ta vie, te conduire afin que, sortant de ce lieu, tu ne sois pas simplement en train de dire « Ah, c'était bien, j'aurais aimé que ces instants durent, eh bien, encore plus longtemps. » Non, tu repars avec quelque chose qui demeure en toi, alléluia, avec la présence du Seigneur, étant capable de relever les défis qui sont à venir, alléluia, amen. Et ça, c'est la foi placée en Jésus-Christ. Et je voudrais que nous puissions ensemble, eh bien, voir simplement ces quatre mots, voilà, comme ça, en relisant ces textes, croire en Christ, entendre sa voix, entendre sa voix, il nous est dit, voir sa face et demeurer, eh bien, dans les Écritures où les Écritures demeurent en nous. Alors, croire en Christ, eh bien, ce texte, eh bien, nous révèle que toutes choses sont possibles à ceux qui croient dans le Seigneur. Tout à l'heure, je vous ai parlé, eh bien, de ce texte qui nous dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu ». Je voudrais vous faire rappeler, faire considérer que dans ce verset, c'est extraordinaire ce qui se passe parce que Dieu nous éduque. Jésus, Christ, Fils de Dieu. Vous avez remarqué ? Cet homme qu'on appelle Jésus. Un homme s'appelait Jésus. Oui, mais plus qu'un homme, c'est le Christ. Il est venu pour une mission. Il est venu pour... Le Christ, c'est le serviteur. C'est celui qui accomplit une mission. Et ce serviteur, c'est le Fils de Dieu. Alléluia ! Et on découvre une chose, Jésus, Dieu, c'est Dieu fait homme, Dieu s'est incarné dans un homme pour une mission bien particulière, se donner à la croix, offrir sa vie en sacrifice pour te racheter, mais comme il est le Fils de Dieu, la mort n'a pas pu le retenir, il est ressuscité. Alléluia! Et je crois qu'en ceci, eh bien, nous sommes d'accord avec les chants que nous avons chantés ce matin, eh bien, c'est que Jésus surpasse tout autre homme, tout autre créateur de religion ou je ne sais qui, eh bien, il est le Fils de Dieu. Alléluia, amen. Et il se passe quelque chose lorsque, eh bien, on est au contact de cette révélation, c'est que notre vie se met à changer, à être transformée. Je voudrais vous dire que cette foi qui naît dans le cœur, eh bien, de ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus, ce n'est pas le produit d'une éducation, d'une culture ou d'une religion. La Bible nous dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, alléluia! Bien sûr, nos cœurs sont attirés, bien sûr, il se passe quelque chose d'indescriptible. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous attire vers Christ, vers le Seigneur Jésus, mais il se passe quelque chose de l'ordre du miracle, la révélation de Jésus, alléluia! Amen! Amen! Gloire à Dieu! Et mes frères et sœurs, lorsque cette révélation se fait dans nos cœurs, lorsqu'on réalise, mais... Alors Seigneur, si tu t'es fait homme, si tu es venu sur cette terre, ça veut dire que tu t'intéresses à ma vie, ça veut dire que je peux m'approcher de toi, ça veut dire que je peux saisir auprès de toi le secours dont j'ai besoin, et toi tu vas intervenir, alléluia, amen. Et c'est cela la foi, c'est cela la foi. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un dont le cœur s'est peut-être asséché peut-être brisé par certaines épreuves, par la violence même d'un cynisme qui t'entoure dans ta famille, dans le milieu professionnel, où on se moque de toi, on se moque des choses de Dieu. Mais je voudrais te dire, laisse toutes ces choses de côté et laisse le Saint-Esprit révéler Christ. Alléluia. Amen. Amen. C'est extraordinaire lorsqu'on a la foi placée en Jésus. Et en préparant ces moments, je me suis souvenu d'un homme de la Bible qui a osé placer sa foi en Jésus. Vous connaissez Bartimée ? Ça vous dit quelque chose, Bartimée ? Au Gib, on ne dit pas à l'école du dimanche. Hein. Au Gib, tous les enfants connaissent Bartimée. C'est aveugle. Il y avait un pasteur, un frère Zigane, un bon prédicateur, mais à un moment, vous savez, des fois, quand on prêche, on se mélange les pinceaux. Hein. Voilà, et il prêchait sur Zachée. Et vous savez, Zachée, c'est ce petit homme publicain qui est monté sur un arbre pour voir Jésus. Et dans sa fougue, le prédicateur qui prêche sur Zachée dit, mais Jésus, lève les yeux et il voit dans l'arbre Bartimée. Alors c'est dans la même ville, hein, c'est à Jéricho. Hein, et là, en même temps, le prédicateur se rend compte que ce n'est pas Bartimée, c'est Zachée. Et il dit, mais il doit continuer, il dit, Bartimée, Bartimée, pourquoi est-ce que tu es monté dans l'arbre de Zachée ? Voilà. Et voilà, comme par une pirouette, eh bien, il est redescendu. Alléluia. Mais l'Écriture nous dit que cet homme qui était dans Marc 10, au verset 46, qui était le fils de Timée, Bartimée, mendiant avec, qui était assis au bord du chemin, il entendit que c'était Jésus qui passait ici à Jéricho, Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus !» Aie pitié de moi. La foi, elle est intelligente. Malgré sa cécité, sa condition de mendiant, cet homme savait qui était Jésus. La foi, ce n'est pas dire oh, « j'ai un frisson, l'éternité, le grand vide sidéral ». Non, non, ce n'est pas ça. Je sais en qui je crois. C'est Jésus de Nazareth, c'est le fils de David, le Messie, et il a pitié de moi, il vient à Jéricho. La foi, je parle de la connaissance de la foi. Et puis cet homme, je passe rapidement, mais au verset 50, il nous est dit, tandis que Jésus l'appelle, on pourrait parler de la persévérance de la foi aussi, parce qu'on veut le faire taire. La foi a une persévérance. Quand la promesse tarde, attends-la, je sais en qui je crois, il va répondre. Mais on veut finalement, le Seigneur l'appelle, et l'Écriture nous dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. La foi a une assurance. Je sais que parce qu'il m'appelle, il va me bénir. Mon Dieu ne ment pas. Mon Dieu ne trompe pas. Mon Dieu ne tend pas des pièges. Mais il veut mon bonheur. Alléluia ! Et il se sépare de son manteau, l'assurance de la foi. Et l'Écriture nous dit, eh bien que lorsqu'il se trouve devant le Seigneur, celui-ci lui dit, que veux-tu que je fasse ? Et il répond, eh bien, Rabouni, c'est-à-dire maître, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi, ta... sauver. L'expérience de la foi. L'expérience de la foi. Une connaissance, une assurance, une persévérance, mais aussi une expérience. Et lorsque on lit la parole de Dieu, on voit des hommes et des femmes, ce n'est pas des grands théologiens, ils ne sont peut-être pas capables d'écrire de grands ouvrages, point numéro 1, point numéro 2, et puis etc. Non, non, non. Mais ils disent, il s'est passé quelque chose. Je pense à cet aveugle qui s'est lavé à Siloé. Dieu, mais moi, je sais une chose. C'est qu'avant, j'étais aveugle, maintenant, je vois. Et on peut tous le dire, ça. Nous tous qui avons rencontré le Seigneur, avant de rencontrer Jésus, j'étais malheureux, j'étais dans mes péchés, dans ma boue, etc. Et depuis que j'ai rencontré le Seigneur, ça n'a plus rien à voir. Alléluia ! Amen, gloire à Dieu. Avec Guillaume, on a entendu cette semaine, et je crois que ça, on pourra prendre le temps aussi d'entendre des témoignages de temps en temps au milieu de nous, dans des réunions d'évangélisation. Elle est où, notre sœur Corinne ? Elle est là, voilà. Hein. Et on est heureux de la revoir, Corinne. C'est le premier culte depuis longtemps. Alléluia. Donc, on est heureux de la revoir. Et elle nous a dit, avant de rencontrer le Seigneur, la dépression la plus totale, et il y a eu un miracle. Alléluia. Et maintenant, on la voit, elle est rayonnante. Amen. Mais ça, c'est l'œuvre de Jésus. On ne peut pas dire, mais c'est une espèce de, je ne sais pas, d'auto-persuasion, voilà. Non, 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 on est heureux, on a rencontré le Seigneur, alléluia ! Mais la Bible nous dit que cette foi, eh bien, nous amène eh bien, à vivre une vie dans laquelle, et c'est à cela que je voudrais arriver, où nous entendons sa voix, où nous voyons sa face et sa parole demeure en nous. Alors, entendre sa voix, c'est mon deuxième point. Jésus, en tant que fils, a entendu à plusieurs reprises la voix de son Père Céleste s'adresser à lui, notamment au moment où il se fait baptiser. « Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » Lorsque, transfiguré sur la montagne avec trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, le Père dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et puis lorsque Jésus, troublé dans son cœur à Jérusalem, eh bien, se met comme à trembler face à Golgotha, mais dit et il s'avance vers Golgotha, rejetant tout trouble, et une voix se fait entendre dans le ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » C'est-à-dire lorsque nous plaçons, notre foi dans le Seigneur, nous découvrons une chose au-delà du salut, au-delà de l'assurance que nous avons que nos péchés sont pardonnés, nous découvrons un langage personnel avec Dieu, avec notre Seigneur. Il y a là, eh bien, la voix, vous savez, la voix, c'est plus qu'un écrit. C'est plus qu'un écrit. J'ai entendu récemment une expérience douloureuse de personnes, il y a quelque temps, qui avaient perdu un être cher dans un accident de voiture. Et il disait, ce qui nous manque, c'est entendre sa voix. Et il disait, c'était quand même émouvant d'entendre ça. Il disait, la seule façon qu'on a de se souvenir de sa voix, c'est on écoute les messages, la messagerie sur le téléphone. Et on se rappelle sa voix. Parce que la voix, c'est autre chose qu'un écrit. Au travers de la voix, on entend de l'émotion, on entend de la colère, on entend de l'amour. Il y a plein de choses qui passent dans la voix. Et là, il nous est dit, si nous plaçons notre foi en Christ, plaçons notre foi en Jésus, nous devenons des enfants de Dieu et nous pouvons entendre la voix de Dieu nous parler. Et de la même manière que le Père a parlé à son Fils, nous aussi qui sommes en Christ devenus des enfants de Dieu, ça a été rappelé tout à l'heure par le texte que nous a lu Guillaume, nous découvrons qu'il y a un langage personnel, un rapport d'intimité, de proximité, un échange, une complicité même, qui se fait. La Bible nous dit que dans Éphésiens 2:13, maintenant Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ce n'est pas le moment de faire toute l'étude de l'Épître aux Éphésiens, mais cette Épître nous apprend qu'il y avait un plan dans le cœur de Dieu, c'était de faire de nous ses enfants. Pour cela, il nous a rachetés. Il ne pouvait pas nous prendre comme cela. Il a réparé nos erreurs, il nous a lavés, pardonnés, il nous a rachetés. C'est la rédemption, le pardon de nos péchés. Et ensuite, il nous a adoptés. Il a fait de nous ses enfants pour nous faire entrer dans son héritage. Alléluia! Mais c'est glorieux cela, amen, alléluia. Imaginez un gamin des rues, un milliardaire s'intéresse à lui, il te dit, écoute, toutes les bêtises que tu as faites, là, tac, j'éponge tes dettes, maintenant tu viens à la maison avec moi, t'es mon fils, alléluia. Et tu deviens mon héritier, amen. Mais c'est extraordinaire, alléluia, vous aimeriez pas vous? Vous l'avez vécu. Amen, et avec le Seigneur, et de telle sorte même, et ça je voudrais le lire mes frères et sœurs, dans Romains au chapitre 8, Romains chapitre 8 et le verset 14, Romains chapitre 8 et le verset 14, voici ce qui nous est dit. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. » Abba même, ça veut dire papa. Abba, c'est l'araméen, on ne parle pas araméen, mais bon. Abba, père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons, bien sûr, parce qu'il faut rester fidèle. Et la fidélité se traduit aussi par des épreuves et on marche fidèlement afin d'être glorifié avec lui. Amen. Alléluia. Mais pourquoi l'Écriture nous parle de ça? Pourquoi Jésus, le Seigneur, veut dire, vous allez entendre sa voix? Pourquoi on doit Et pourquoi l'Écriture veut installer dans notre cœur, mais avec précision, on est des enfants de Dieu et Dieu veut te parler. Et je pense, sérieusement, que nous pouvons avoir dans nos vies d'anciens schémas qui font que lorsque on commence à réfléchir au fait que Dieu veuille nous parler, on peut avoir ce genre de questions, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi Dieu veut-il me parler ? Est-ce qu'il a quelque chose à me reprocher ? Je me souviens, étant plus jeune, il y avait un pasteur que je craignais un peu, et un jour il m'a dit, un vieux pasteur, vous savez, qui en imposait, et il m'a dit, je voudrais te parler. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et j'ai passé en revue un peu au scanner, non, c'est bon. Voilà, et parfois, on a ce genre de vieux schéma, alors que lorsque nous lisons la parole de Dieu, et notamment l'action du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 12 et au verset 3, l'Écriture nous parle que le Saint-Esprit et l'action même des dons spirituels, dons de prophétie, c'est édifier, c'est consoler, c'est exhorter. Lorsque je lis dans Jean chapitre 10, Jésus qui est le berger et qui parle aux brebis, l'Écriture ne nous dit pas que les brebis ont peur de la voix du berger. Elles reconnaissent la voix du berger, c'est le bon berger, et elles se mettent à le suivre. Et vous savez qu'une voix, c'est rassurant. J'entends ta voix. Voilà, Seigneur, ta voix, elle est là. Et elle m'appelle, elle me conduit. Dans la Bible, il y a un homme dont le ministère a été marqué par le fait que Dieu parlait avec lui. C'était un homme de l'ancienne alliance, alors qui annonçait des temps à venir, mais c'était un privilège pour cet homme-là. Maintenant, il n'y a plus de privilégiés, on est tous privilégiés dans la grâce de Dieu. Mais cet homme, c'est Moïse, vous connaissez, dans Exode chapitre 3, verset 11, il nous est dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Vous vous souvenez de ça ? Comme un homme parle avec son ami. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, dira Jésus. C'est-à-dire que, ayant placé ma foi en Jésus qui me sauve, je dois m'attendre à ce qu'il me parle, non pas pour me faire des reproches, mais ça y est, c'est pardonné, c'est effacé. Et quand bien même quelqu'un serait tombé, mais viens auprès de ton maître, de ton Seigneur, qui est un souverain sacrificateur et qui te pardonne, qui te rétablit, alléluia. Bien sûr, si tu as des combats, eh bien, combat-les afin que tu en sois délivré. Je fais une petite parenthèse. Nous servons pas de la grâce de Dieu comme d'un voile, eh bien, qui cache la méchanceté d'un cœur. En disant, de toute façon, c'est pas grave si j'entretiens telle mauvaise habitude parce que le Seigneur me pardonne. Si tu penses ça, tu vas à ta perte. Tu ouvres des brèches à l'adversaire de ton âme, mais au contraire, eh bien, demande au Seigneur que ta vie, eh bien, soit capable de soutenir l'épreuve, la tentation. Et Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, et il peut te rendre vainqueur. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je reviens à mon sujet principal de ce point. Eh bien, le Seigneur veut nous parler. Et quand je vois la vie de Moïse, je m'aperçois que c'est extraordinaire quand Dieu parle à Moïse comme un homme avec son ami. Vous aurez le temps de le lire à la maison, dans Exode 3, quand Dieu se révèle à Moïse dans la flamme du buisson ardent, il le connaît par son nom, il lui parle, il lui indique comment s'approcher de lui, il se révèle, je suis l'Éternel. Moïse trouve une compassion dans le cœur de Dieu, compassion du peuple de Dieu. On voit que Dieu même veut lui laisse aussi une mission, il donne un sens à sa vie, et puis lui dit, mais je serai avec toi, il y a une consolation. Puis non seulement cela, il lui assure sa puissance dans sa vie, une consolidation. Mais c'est extraordinaire quand Dieu nous parle. Et on s'aperçoit que Dieu n'est pas contre Moïse, mais si Dieu veut lui parler, c'est parce que, eh bien, il l'aime. Et si Dieu veut te parler, c'est pas parce que, eh bien, il veut te faire quelques reproches, mais c'est parce que, comme un père qui aime son fils et qui veut avoir un échange, comment tu vas ? Est-ce que où en est ta vie ? Il veut t'enrichir. Alléluia. Il veut partager. Il veut échanger. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que c'est important. Et parfois, parce qu'on s'est fait toutes sortes de faux raisonnements dans la communion que nous pouvons avoir avec le Seigneur, alors il y a des pans entiers de notre vie spirituelle qui sont arrêtés parce que ce à quoi Dieu nous amène en Christ, c'est une communion avec lui. la prière, la lecture de la parole de Dieu. Mais si dans ton cœur tu penses qu'à chaque fois que tu vas lire la Bible, à chaque fois que tu vas te mettre à prier, c'est parce que Dieu va te reprocher quelque chose, alors ces moments vont être vécus comme une souffrance. Alors que c'est tout l'inverse. Je suis avec toi. Alléluia. Je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Et voilà, et l'Écriture est extraordinaire. Amen. Alléluia. Entendre sa voix. Le troisième point, eh bien, c'est voir sa face. Alors, voir la face de Dieu, normalement, c'est impossible. Parce que l'Écriture nous dit ceci, dans Exode 33 et au verset 20, quand Dieu parle à Moïse, il lui dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut me voir et vivre. Cependant, et puis en effet, Romains 3, 23 nous dit ceci, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Donc, le message de l'Évangile, c'est celui-ci, l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu, ni voir sa gloire, mais en Jésus, c'est possible. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre une chose, c'est dans le langage biblique, voir la face de quelqu'un signifie qu'il nous est favorable. Signifie que si quelqu'un ne nous est pas favorable, il ne veut pas nous voir. Mais si quelqu'un veut nous est favorable, il veut nous voir. Par exemple, vous avez envoyé cette lettre de motivation, elle a passé quelques filtres, elle a intéressé quelqu'un et on vous dit, je voudrais vous voir. Tac, ah, c'est quand même bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux voir un interlocuteur. C'est mieux qu'un message, un mail comme ça reçu. Voilà, votre profil est très intéressant, cependant, voilà, bon, vous connaissez hein, tout ça. Mais là, je vais voir quelqu'un. Et puis, lorsque l'entretien se passe bien, je voudrais vous revoir, monsieur. Ouh, ça sent bon, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Vous voyez? Voir la face de quelqu'un, voir le visage de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de négatif. Mais l'Écriture eh bien, nous montre que eh bien, cela est quelque chose, eh bien, au contraire, eh bien, de positif. Il y a des psaumes, des textes dans la parole de Dieu qui nous parlent de cela et qui annoncent eh bien, toutes ces choses. Psaume 34, verset 5. Quand on tourne les regards vers lui, on est triste. Quand on se met à tourner nos regards vers le Seigneur, à chanter des cantiques, on a envie de pleurer tous, David, c'est extraordinaire. Non, c'est pas vrai, alléluia! Quand on tourne les regards vers toi, Seigneur, on est rayonnant de joie. Regardez ce qui nous est dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 32 et au verset 30. Au chapitre 32 du livre de la Genèse et au verset 30, un homme eh bien, qui était comme un fugitif devant Dieu, il s'appelait Jacob, et il va devenir Israël. Et au chapitre 32 du livre de la Genèse et au verset 30, il dira ceci, eh bien, chapitre 32, Et le verset 30, est-ce que vous êtes avec moi? Voilà, oui, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Il nous est dit que Dieu donc bénit là Jacob. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est-à-dire que nous découvrons, eh bien, dans ce texte que l'Écriture nous dit, toi qui places ta foi en Jésus, sache que maintenant, eh bien, non seulement il t'appelle à venir dans sa présence, mais tu peux voir sa face et il t'est favorable. Il t'est favorable. Il y a d'autres exemples, mais l'Écriture nous enseigne à comprendre que Dieu nous est favorable. Oui, celui qui m'a vu a vu le Père, dira le Seigneur Jésus. Mais bien sûr, Seigneur, tu m'es favorable. Et peut-être, encore une fois, chassant de notre cœur toute pensée, faux raisonnement, laissons l'Écriture eh bien, nous enseigner sur les intentions de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous découvrons que Dieu n'est pas contre nous, je le répète, mais il est avec nous. Nous avons un avocat auprès du Père. Alors pourquoi ne pas désirer chercher le soutien, le secours de Dieu? Dans la Bible, il y a quelqu'un, une jeune femme, qui a hésité. Et parfois, nos hésitations, elles peuvent être lourdes de conséquences. Dans le livre d'Esther, qui est un livre très particulier où Dieu est à la manœuvre, le Saint-Esprit est là, et pourtant c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'apparaît pas. Dans le livre d'Esther, un complot est en train d'être ourdi contre le peuple d'Israël. Un certain Haman veut liquider par pure haine, vengeance personnelle, un peuple tout entier. Et un homme de ce peuple, Mardoché, un homme rempli du Saint-Esprit, eh bien, a connaissance de cela. Et le roi de Suse, eh bien, vient de se marier, vient de prendre pour épouse une jeune fille juive. Il ne sait pas que c'est encore quelle est l'appartenance de son peuple, mais alors j'entre pas dans tous les détails, mais elle est particulièrement belle, etc. Et c'est sa femme. Et à cette époque, pour qu'une femme puisse voir son mari, temps antique, certains disant, mais c'est voilà, bon, non, je ne vais rien dire. Pour qu'une femme puisse voir son mari, il fallait que son mari l'appelle. Oui, aujourd'hui, c'est pas comme ça, voilà. Mais voilà, il fallait que son mari l'appelle. Et là, elle dira ceci, Mardoché. Allez, je vais lire avec vous. Vous êtes avec moi ? Je suis en train de m'embourber dans des explications, là. Esther, chapitre 4, et regardez ce qu'il nous est dit. Esther 4, et le verset 8, et même le verset 10, pardon. Esther chargea Hatak, donc un serviteur de Mardoché, d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi. Et il nous est dit, à la fin de ce verset 11, « Et moi, je n'ai point été appelé auprès depuis 30 jours. » Elle hésite à entrer. Et lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. » Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs et toi et ta maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et ces paroles vont faire mouche, parce qu'au chapitre 5, verset 1er, il est dit, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux, se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi, et le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Et lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Mais les craintes d'Esther étaient inutiles. Si nous entrons dans la présence de notre Dieu, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est parce qu'il nous fait grâce, alléluia. Et je voudrais vous dire, elle va voir le roi face à face. Et l'Église a besoin de voir eh bien, son Seigneur face à face et de lui présenter eh bien, tous les sujets de prière qui sont là, tous les conflits, tous les combats auxquels nous pouvons faire face. Et elle va dire, j'ai pas le temps de dire comment les choses se sont passées, mais elle va révéler tous les complots qui sont en train de se faire dans le propre royaume de son mari. Et cet homme, une fois éclairé, va apporter le secours et la délivrance à un peuple tout entier. Dieu nous est favorable, alléluia, amen. Quand je tourne les regards vers toi, Seigneur, je suis rayonnant de joie. T'es pas contre moi, t'es avec moi. Mon visage, eh bien, est rayonnant de joie parce que je ne suis pas couvert de confusion lorsque je m'approche de toi. Alléluia. Bien sûr, Seigneur, j'ai besoin de sonder mon cœur. Tu n'aimes pas l'hypocrisie, le mensonge, tu le bannis. Ça n'a pas lieu d'être dans ton royaume. Sonde mon cœur, connais-le. Je veux t'apporter des sujets dans lesquels, eh bien, tu puisses intervenir. Alléluia. Et je voudrais dire peut-être aux frères, à la sœur qui s'interrogent sur sa présence sur cette terre, et parfois ça dit, à quoi je sers, Seigneur ? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, dira Mardoché, eh bien, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, que tu es parvenu à avoir cette relation avec le Seigneur pour ta famille, pour ton mari, pour ta compagne, pour ta famille, pour tes voisins, être de celles et ceux qui intercèdent. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui, lorsqu'on leur parle de Dieu, ça leur fait peur, ça les barbe, etc. Mais toi, tu connais un Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Vous êtes là ? Voir la face de Dieu. Ah, mais toi, tu es différente, tu es différente. Qu'est-ce que tu as ? Moi, j'ai rencontré le Seigneur, il m'aime et il veut te sauver. Viens devant sa face. Alléluia. Au nom de Jésus. Et puis, je termine. en disant ceci, eh bien, c'est que ce texte nous dit, eh bien, et sa parole, eh bien, demeure en nous. J'ai parlé du mot demeurer tout à l'heure. Ça parle d'habiter parmi nous. Tout à l'heure, en lisant le texte, Guillaume disait ceci, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Voilà, et le texte signifie même tabernacler, résider au milieu de nous. Et ici, c'est le même mot, avec les mêmes racines, qui parle aussi d'une alliance comme d'un mariage. On ne sépare pas ce qui est joint. Et ça signifie une chose, c'est que toi qui places ta foi dans le Seigneur, toi qui as compris que tu pouvais rentrer dans la présence de ton Dieu te parle, t'encourage, te fortifie. Tu vois sa face, il est avec toi, il est ton avocat et il prend ta vie en main, ta situation en main. Tu peux repartir avec cette promesse, cette parole de Dieu, cette révélation de ton Dieu avec toi. Alléluia. Quittant ce lieu, quittant ces moments, en étant assuré que ton cœur, parce qu'il a été purifié, sanctifié, eh bien, est la demeure du Très-Haut, et que dans ta vie, eh bien, il va accomplir ses paroles. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. J'entends sa voix, je vois sa face, sa parole demeure en moi, je peux avancer. Alléluia. C'est important, ça. Ça ne dépend pas de ma fatigue physique, ça ne dépend pas des épreuves, ça ne dépend pas, je ne sais pas, de quelle situation, ça ne dépend pas des événements. Dieu est avec moi, alléluia, amen. Petite parenthèse pour dire combien nous avons besoin de veiller sur notre cœur, combien nous avons besoin, eh bien, que rien ne vienne attrister le Saint-Esprit, eh bien, dans notre vie. Mais nous sommes, eh bien, bénéficiaires d'une alliance extraordinaire, puisque le sang de Jésus nous purifie de tout péché, eh bien, son esprit peut habiter en nous. La révélation de sa personne demeure en nous et nous pouvons aller, eh bien, avec assurance, remporter, eh bien, des victoires parce qu'il est là. Alléluia ! Je termine en vous citant un dernier exemple. Dans le livre de la Genèse, tout à l'heure, on a lu ce texte dans Exode 33, 11, et l'Écriture nous dit que Dieu donc parlait avec Moïse face à face comme un homme avec son ami, puis il s'en allait, il sortait. Mais il y avait un personnage qui restait dans le tabernacle. C'était Josué. Et lui, il ne quittait pas le tabernacle. Je vous ai dit, tabernaclé, habité. Lui, il restait là. Et vous savez que cet homme, qui restait dans la présence de Dieu, et on peut comprendre, bah, si je demeure en toi, demeurez en moi. Toi, tu demeures en nous. C'est cet homme-là qui a amené, eh bien, le peuple dans le pays promis. Alléluia. Et mes frères et sœurs, on veut se nourrir et dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, afin que dans ma famille, près de mes enfants, près, eh bien, de toutes celles et ceux à qui je dois parler de toi, eh bien, je sois comme un Josué, alléluia, en disant, Dieu n'a pas changé, il est là, il est avec moi. Je termine, je le dis trois fois et puis je vous laisse. Dans 1 Jean, c'est un texte que j'aime bien pour les jeunes. Alors les jeunes, ça c'est pour vous, prenez-le. Et il nous est dit ceci, je crois que vous l'avez déjà entendu de ma part, 1 Jean au chapitre 2, mais les moins jeunes, vous pouvez le lire, mais bon, voilà. Mais si, voilà, c'est pour tous. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Il y a des périodes dans la vie, vous savez, il y a des pères, il y a des jeunes, il y a des petits-enfants et il y a des jeunes. Les pères, ce sont ceux qui ont une maturité. Ils ont rencontré des épreuves, ils ont résisté, ils ont gagné, ils ont vaincu. Et ce qu'ils ont, ils peuvent le communiquer. Et les petits-enfants, ce sont celles et ceux qui viennent de rencontrer le Seigneur. Ils suivent, ils apprennent, ils sont au bas à bas. Mais entre les deux, il y a des jeunes. Et ce n'est pas forcément une question d'âge. Voilà, c'est aussi un état spirituel des jeunes. Des gens qui disent, mais moi, j'ai besoin de bâtir ma vie. Merci Seigneur pour le pardon, tout ça. Mais Seigneur, je veux plus. Je veux construire ma vie, je veux bâtir ma vie. Et pour ça, j'ai besoin de victoire. Le diable veut m'empêcher. Oui, mais vous êtes fort. Pourquoi ? Parce que sa parole demeure en vous. Alléluia. La révélation de Jésus. Et je voudrais te dire ceci, ne tremble plus, n'aie plus peur. Pense à cette rentrée qui est là. Arrête, parce que ton Dieu est avec toi. Et comme pour Josué, il te donnera d'entrer victorieusement dans le pays promis. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ça, celles et ceux qui placent leur foi en Christ. Amen. Alors on veut dire, Seigneur, en guise de conclusion, je veux manifester ma foi. Je veux te faire confiance. Je veux croire en toi. J'ai compris que tu es mon Père. J'ai compris que tu es avec moi. Tu veux me parler, tu veux me diriger. J'ai compris que je peux voir ta face. C'est un entretien personnel. Et cette relation, cette communion me rafraîchit. Mais la victoire t'appartient. Et toutes ces choses, elles demeurent en moi. Et personne ne me les ravira. Alors Seigneur, je veux manifester ma foi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous l'avez compris ? Amen ensemble. Peut-être quelqu'un a-t-il besoin d'entendre le Seigneur lui parler, lui donner une direction. Peut-être quelqu'un a-t-il besoin de revenir pour exposer sa situation en disant « Seigneur, comme Esther, j'ai besoin de toi ». Peut-être quelqu'un a-t-il besoin de franchir une étape en disant « Mais non, je suis fort, je vais arrêter de trembler, je vais affronter les événements et Seigneur, tes promesses vont s'accomplir. » Alléluia. Mais on va placer notre foi en Jésus. Vous êtes d'accord ? Amen. On prie quelques instants le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour ces bons moments que nous passons. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Et Seigneur, nous voyons les avantages, les privilèges immenses, mon Dieu, qui sont pour celles et ceux qui ont choisi de placer leur confiance et leur foi en toi. Seigneur, cette foi, c'est quelque chose de facile. Il ne s'agit pas de gravir l'Everest. Il s'agit simplement, Seigneur, de nous appuyer sur toi, de donner de la valeur, du poids à ta personne et à ta parole. Alors Seigneur, tu vois celle qui a besoin d'entendre ta voix. Peut-être, Seigneur, il y a eu dans sa vie des déceptions ou des images faussées. Mais ce soir, Seigneur, ce matin, Seigneur, tu lui dis que, Seigneur, tu es là pour lui parler, pour l'entretenir, pour lui communiquer une direction, comme tu l'as fait à Moïse. Seigneur, un frère, une sœur a-t-il besoin, Seigneur, comme, Seigneur, Jacob, de voir ta face? Il a été transformé, Jacob, dans sa nature personnelle. Sa chair a été crucifiée. Seigneur, il a compris que, Seigneur, sa vie, elle était motivée par l'amour que tu avais pour lui. Seigneur, et ce soir, ce matin encore, Seigneur, je te prie afin que mon Dieu bien-aimé vienne auprès de toi en disant, je ne veux plus me battre avec mes propres armes, avec mes propres arguments, mais je veux compter sur toi, Seigneur. Alléluia. Et puis encore, Seigneur, nous avons vu combien Esther est entrée, Seigneur, dans ta présence. Et Josué, Seigneur, a vu ta gloire. Alors, Seigneur, qu'il en soit fait selon notre foi. Alléluia. Là, à votre place, à quelque niveau que vous êtes, que vous puissiez dire à Jésus, je place ma foi en toi, Seigneur. Je place ma foi en toi. Et si Dieu t'a parlé, arrête de dire, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est une impression? Mais actionne ta foi. Oui, Dieu t'a parlé. Oui, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Et j'y crois. Alléluia, je crois en toi. Alléluia. Oui, c'est le Seigneur qui m'a éclairé sur telle et telle difficulté et qui résout mes problèmes. Oui, il fait briller sa face sur moi et j'y crois. Alléluia. Oui, Seigneur, tu me dis, va avec la force que tu as et j'y crois. Alléluia. Parce que tu ne m'as jamais trompé, tu ne me tromperas jamais. Alléluia. Là, quelques secondes. Et si quelqu'un peut-être avait besoin que l'on prie pour lui, pour elle, en disant, Seigneur, quelqu'un un jour dira, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Peut-être quelqu'un voudrait qu'on prie pour lui afin que sa foi grandisse. Eh bien, tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, on peut lever, ouais, certains lèvent leurs mains. Voilà, on va prier. Voilà, celui, oui, je vois des mains qui se lèvent. Viens au secours de ma foi. Si quelqu'un voudrait que l'on prie encore, oui, je vous ai vu. Disant, mais Seigneur, j'ai besoin que ma foi, elle progresse, elle augmente. Voilà, gloire à Dieu. On va prier pour ces bien-aimés. Et vous qui n'avez pas levé vos mains, eh bien, vous priez pour ceux et celles qui l'ont fait. Seigneur, mon Dieu, nous voulons t'apporter ces bien-aimés, Seigneur, qui veulent grandir dans la foi. Et Seigneur, moi-même, je m'associe à eux parce que je veux, Seigneur, que ma foi grandisse et, Seigneur, dépendre davantage de toi. Mais Seigneur, je t'apporte mes frères et mes sœurs, ces bien-aimés qui sont là, Seigneur, peut-être face à des situations, Seigneur, de combat, Seigneur, de tempête intérieure. Et ils ont compris que toute la solution, elle est en toi. Alors, Père Céleste, je te demande, Seigneur, d'intervenir et de poser ta bonne main, Seigneur mon Dieu, sur chacun d'entre eux, afin que leur foi étant renouvelée, Seigneur, ils puissent, Seigneur, rencontrer les victoires dont ils ont besoin, parce que ta parole nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et mon Dieu, que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Seigneur, à toi toute la gloire. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen.